just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus and Jonicus was bound to fail. So will you if a car like it at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra. Timberline, she was a modern day Bridget Jones. Love's labor's lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is real estate and I am the owner.
Bonsoir.
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 Il est 19h passé de 5 minutes et c'est le Canu Info du mercredi 15 janvier 2014. D'abord, nous parlerons bref de désordre sur Radio Canu.
Ensuite, l'occupation du chantier d'Oelland.
Les records des évacuations des squats et camps de Rome.
Des lois racistes et une pétition en ligne.
Révélation sur l'assassinat de 3 membres du PKK.
Et les dépôts de tabac en grève.
Des brèves.
Roi des cons. Femme détenue. Enfin, plein de brèves.
Un homme abattu à cause d'un SMS.
Etc, etc. Et ensuite, il y aura la rubrique « Faut que ça se sache ». La rubrique sur les migrations. Et puis des bonus. Et ça va vraiment claquer ce soir.
Il y a un peu l'amour, c'est pour ça, c'est un peu le bordel.
Et je commence direct par une petite brève du désordre. Dans la nuit de lundi à mardi, la vitre de la porte d'entrée des studios de Radio Canu a été attaquée à coups de pierre. Des pierres qui ont été laissées sur place. Une équipe de militants en charge de la balistique a été mise sur l'enquête. Cet acte de vandalisme notoire est certainement relié au contexte politique lyonnais. Au mois de janvier, il est de bon ton de nous souhaiter une bonne année. On espère juste que pour l'année prochaine, ce sera un peu moins fracassant. And I am starving, I want much more than a penny or a farthing. I told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, which do you class him? Speak eloquent.
Allez, il n'y a pas que Radio Canu que les gens viennent embêter. Il y a aussi le chantier du grand stade Oelland à Décines, puisque un groupe d'opposants a réussi avant-hier lundi à bloquer partiellement l'entrée de ce chantier en s'enchaînant au portail et parallèlement en occupant une grue. Ils ont commencé un petit peu avant 7h du matin. Ils ont bloqué l'entrée du parking en s'enchaînant au portail avec des chaînes et des cadenas fixés autour du cou, en s'enchaînant les bras dans des gros tubes en PVC, là, qui fait que c'est un peu compliqué à déloger parce qu'il faut scier les tubes, mais en sciant les tubes, on risque de scier les mains. Et la plupart du temps, on peut compter sur le fait que les flics vont hésiter à faire ça. Et voilà, il y avait une banderole au-dessus d'eux qui disait « Stoppons Oelland ». Et parallèlement, 3 personnes étaient montées dans une grue. Et là, il y avait des banderoles qui étaient visibles, des voitures qui étaient en train qui étaient dans un bouchon sur le périph. Banderole sur laquelle on pouvait lire « Grand projet inutile ». À quelques mètres des opposants, les ouvriers venaient travailler à 7 heures du matin. Et ils étaient debout, ils étaient étonnés, ils étaient plutôt amusés qu'en colère. Un groupe d'entre eux, plutôt vieux, eux, ils sont d'accord, en gros. Surtout quand les opposants expliquent que le projet s'est construit sur des mensonges, qu'il devait y avoir des histoires d'emplois locaux qui devaient être créés, et puis en fait, non, etc. Il y a des ouvriers qui font le tour pour aller quand même sur le chantier, il y en a d'autres qui décident de pas bouger, en mode, de toute façon, je suis payé, les patrons sont au courant, c'est à eux de réagir. La police municipale observe la situation, relève des identités. Bon, je crois bien que la police municipale n'a pas le droit de relever des identités, mais... Et en tout cas, on relève les identités de la majorité, de la cinquantaine de personnes qui se trouvent sur les lieux. Il y a des agents de la BAC aussi qui se mettent à fouiller des gens.
Si, si, ils peuvent relever des identités.
Ok. Vers 10h, ça fait 3h que l'entrée est bloquée, il ne reste plus qu'une dizaine d'ouvriers en attente, les 5 enchaînés se détachent, suite à, je sais pas, en tout cas ils se détachent, et là on leur avait promis qu'ils ne seraient pas embarqués, mais en fait si, donc monote et direction le commissariat de Mézieux. Le reste du groupe se rend devant les grues à l'extérieur des palissades, le GIPN arrive sur les lieux en vue d'une intervention pour déloger les 3 qui sont sur la plateforme de la grue. Et ceux-ci décident de descendre après avoir allumé un feu de Bengale. Et puis, hop, ils se font embarquer aussi au commissariat avec un autre militant qui était resté en bas de la grue. Le petit tour au commissariat a duré quelques heures, mais ils sont ressortis avec un rendez-vous pour passer devant le juge.
Record des évacuations de camps et squats de Rome. Alors voilà, ce gouvernement a pulvériser les records d'expulsion de squats et de camps en France. En gros, Sarkozy et sa clique ont évacué 9404 personnes en 2012, Hollande, avec son fidèle serviteur Manuel Valls, en a évacué 21 537, soit le double, enfin plus du double.
Eh bien, ils doivent faire leurs preuves pour pas faire peur à la droite.
C'est ça. Ce qui est assez fou dans ce chiffre, c'est que là, du coup, le chiffre de 21 537, il s'agit de personnes.
On oublie trop souvent ça derrière les chiffres.
Ouais, c'est ça. Et c'est que derrière ça, en fait, il y a la population qui vit en bidonville ou en squat sur le territoire national est évaluée à environ 16 949 personnes. Ce qui veut dire qu'une bonne partie d'entre eux se sont fait expulser plusieurs fois dans l'année. Le rapport de la Ligue des droits de l'homme et de EERC, c'est pour European Roma Rights Center, précise que les évacuations sont concentrées pendant l'été et l'hiver, alors que par exemple, sous le gouvernement précédent, le nombre d'expulsions ralentissait pendant la période hivernale.
Il y a eu d'ailleurs, je te coupe 20 secondes, il y a eu d'ailleurs aussi toute une espèce de rapport comme ça et un truc qui se met en branle que vous pouvez trouver sur internet justement qui demande l'arrêt des expulsions en hiver parce qu'elles sont en augmentation un peu faramineuse cette année.
C'est ça, parce qu'on ne précisera jamais assez, les expulsions locatives, enfin la trêve hivernale concerne les expulsions locatives mais pas les squats et bidonvilles. Et bien sûr, et bien, la circulaire qui précise que les évacuations doivent se faire avec un relogement, circulaire qui doit servir aujourd'hui de papier toilette dans les préfectures, ne soit appliquée. Ou alors, bon, il y a aussi la version de quand les préfectures font semblant de l'appliquer, ils envoient deux travailleurs sociaux sur les lieux, ils choisissent deux ou trois familles avec des nourrissons de préférence, les relogent trois jours à l'hôtel, puis les remet dehors avec parfois une OQTF en prime qui leur a été distribuée à l'hôtel.
Obligation de quitter le territoire français dont on parle souvent.
C'est ça, c'est ce qui fait en sorte que les gens soient expulsés de France. En ce qui concerne Lyon et sa région, c'est 2028 personnes qui ont été expulsées de leur lieu de vie, ce qui représente 11% des expulsions nationales. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce rapport. Ce dont il ne parle pas, en revanche, c'est la montée des commentaires racistes des élus ou responsables politiques à l'égard des Roms. On a eu l'expérience à Lyon avec Oulin, où là, même si ça concernait pas directement les Roms, ça faisait quand même des gens qui habitaient dans un camp. Et enfin, tout un tas de trucs, des appels au meurtre et tout. Voilà, il règne en France une sale ambiance. Que dire de plus si un petit message à celles et ceux qui sont allés voter la prochaine fois, s'il vous plaît, abstenez-vous.
Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'une pétition à signer en ligne. C'est surtout pour faire une piqûre de rappel sur des lois racistes. Donc, c'est la pétition pour l'abrogation de la loi du 15 mars 2004 qui est trouvable et accessible sur le site internet du CFPE, Collectif des Féministes pour l'Égalité. Et le lien, c'est http://www.cfpe2004.fr. Donc, petit rappel. Donc, la loi du 15 mars 2004, c'est la loi qui a interdit les signes religieux dits ostentatoires dans les écoles publiques françaises au nom du sacro-saint principe de laïcité. Dans les faits, cette loi vise tacitement le voile islamique et celle qui le porte. Donc, de nombreuses associations et collectifs soutiennent d'ores et déjà l'initiative du CFPE, qui consiste à faire signer cette pétition au plus grand nombre et plus globalement à préparer une mobilisation le jour des 10 ans de la loi, donc le 15 mars, qui a exclu des collégiennes et des lycéennes hors du système scolaire et de l'école républicaine française. Le CFPE, né il y a 10 ans, s'est précisément constitué contre cette loi, qui fut le point de départ d'une succession de lois, de rapports et de projets de loi qui visent graduellement à la prohibition générale du voile dans la société française, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
Why is it the man that knows a fool? Tempt not a desperate man with a jewel I take from...
Et on arrive à présent au film d'espionnage du jour. Après un enregistrement audio de l'assassin présumé des trois militantes kurdes qui avaient été retrouvées il y a quelque temps, c'est aujourd'hui un document secret publié par des médias kurdes et turcs qui évoque la préparation de l'assassinat donc de Sakin Jansiz, qui est une cofondatrice du PKK, qui a été tuée le 9 janvier 2013, il y a plus d'un an, avec deux autres militants de kurdes à Paris. D'ailleurs, il y a eu une manif, il me semble, il y a deux jours.
Samedi.
À ce propos, ouais, ça fait plus de deux jours, le temps file, c'est fou. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce document ? Eh bien, le document en question porte la signature de Uğur Kağan Haik, qui est le chef du département des services de renseignement turc, le MIT, ainsi que de deux autres responsables de ces services. Ce document est classé secret défense, il est daté du 18 novembre 2011, du coup deux ans avant les faits, plus de deux ans. Non, moins de deux ans, puisque, enfin, bref, mais ça va claquer ce soir. Et du coup, il évoque les informations transmises par un agent nommé Légionnaire sur Sakin Jansiz. Alors, selon ce document, une rencontre a eu lieu en Turquie avec Légionnaire, et dans ce cadre, 6000 euros lui ont été versés pour les préparatifs de l'assassinat. On s'attendait à un peu plus, hein. C'était un assassinat un peu. Et du coup, le document parle aussi de la planification de l'ordre de mise en œuvre de ce plan d'élimination par le dit Légionnaire. Il y a en plus une nouvelle révélation, il y a deux jours, il y a eu un truc qui a été publié sur YouTube, d'un enregistrement audio de Umer Gunay. Alors lui, Umer Gunay, c'est l'assassin présumé qui a été arrêté en janvier 2013. Et il apparaît que ce document a été écrit un mois tout juste avant la dernière visite de Umer Gunay en Turquie. Les suites de l'affaire d'espionnage dans quelques temps.
Et aussi les derniers trucs qu'on sait sur l'assassin présumé là, des trois militants kurdes, c'est que a priori il avait infiltré le milieu kurde à Lyon, enfin pas à Lyon, à Paris, sachant qu'avant il était en Allemagne dans les milieux ultranationalistes turcs, du coup les ennemis des Kurdes. Et qu'il avait été retrouvé sur lui 5 téléphones portables, dont la liste de tous les militants et militantes kurdes de Paris, sauf sa fiche à lui, qu'il avait pris en photo au siège.
C'est la panique chez les buralistes. Donc un conflit social bloque la DRD Logista de Paris-Logne depuis vendredi. C'est quoi la Logista ? C'est un entrepôt qui dessert les buralistes en tabac de toutes sortes. Et pourquoi ? Ben c'est la CGT qui mène le blocage, qui souhaite des augmentations de salaire plus importantes en ce début d'année 2014. Et non. La grève, c'est malheureusement pas à cause des prix tout à fait scandaleux du paquet de tabac en France. Ça aurait pu, mais là, c'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, ce mercredi, les buralistes pris de panique, ne voyant pas leur stock arriver, réclament un plan d'urgence. Donc, c'est eux qui le nomment comme ça. Et le mot pénurie les fait frémir. Alors, on n'a qu'à leur dire, détendez-vous, vous avez qu'à fumer une petite clope.
Mais allez, on part pour un tour de grève.
Alors, la palme du roi des cons revient au patron de Total, qui déclare vouloir payer plus d'impôts en France. C'est vrai que Total est quand même souvent accusé de faire de la défiscalisation à outrance, alors même que l'entreprise génère des bénéfices complètement indécents. Total se défend et promet qu'il ne cherche pas à optimiser dans un sens négatif sa participation à l'impôt. C'est sûr, et on y croit tous, il doit certainement y avoir chez Total des gens grassement payés pour que chaque centime soit déclaré dans les règles et que surtout aucun impôt ne soit oublié et que ça ne parte pas dans des pays avec des avantages fiscaux plus avantageux que la France. Personne n'en doute. Le patron de Total conclut par cette belle phrase dans cette interview: si jamais nos activités s'améliorent en France, nous paierons plus d'impôts. Bon, mais il a précisé, pour 2013, le résultat du groupe ne sera pas forcément en hausse.
En plus, j'ai entendu qu'à la bourse, il venait de perdre un peu des points, tout ça. Dans le CAC 40, c'est le mauvais petit canard.
On est triste.
Ouais.
Donc prison, une femme détenue, retrouvée morte à Fresnes, en Val-de-Marne, dimanche. Donc le corps sans vie de la prisonnière a été découvert en début de soirée. Donc ça, c'est selon une source policière. Et selon une source syndicale, la détenue avait tenté de mettre le feu à sa cellule vendredi.
Et on continue un tout petit peu dans le domaine de la pétrochimie, vous allez voir. Une personne de 38 ans ayant participé à une attaque collective DDoS avec le logiciel Loïc. Je vous explique dans une minute ce que c'est. C'était le logiciel qui avait été mis en place par le collectif Anonymous pour faciliter les attaques DDoS, a été condamné à 183 000 dollars d'amende pour une attaque d'une minute. Alors, je reviens vite fait sur, c'est ça, sur ce que c'est une attaque DDoS. Comment ?
Moi aussi, je l'avais fait.
Putain, faut pas. Oh non.
Faut surtout pas le dire.
On va voir la CIA comme ça aux portes de Radio Canut qui nous ont déjà pété notre vitrine. Alors en gros, les attaques DDoS, on l'a déjà expliqué plusieurs fois sur cette antenne, c'est les attaques de déni de service. En gros, ça simule des pleins d'entrées, plein de connexions sur un même site internet. Ce à quoi le logiciel Loïc facilitait, c'est-à-dire que vous n'aviez pas besoin d'actualiser pour que ça rende l'attaque efficace, mais ça simulait plein d'attaques, ce qui surchargeait les serveurs et les faisait tomber. Là, en l'occurrence, ça l'a fait crasher 15 minutes quand même, c'est pas grand-chose. Le montant de cette amende se base sur ce qu'a coûté à la société cette attaque DDoS. La société a estimé que pour protéger son site, elle avait dû débourser 183 000 dollars. Alors voilà, elle a fait payer à ce pauvre type de 38 ans qui a fait ça pendant une minute alors qu'il y avait plein de gens. La totalité du truc, c'est dégueulasse. Et en plus, la société en question est Koch Industries, qui est une société dans le domaine de la pétrochimie. Voilà, on a cessé de vous conseiller que le logiciel Loïc qui a été mis en place est certes très pratique, mais il faut tout un tas de précautions derrière pour ne pas se faire choper et ne pas avoir à payer des sommes faramineuses.
C'est quoi l'entreprise ?
C'est Koch Industry.
Et maintenant, on va parler de Curtis Reeves, 71 ans, qui est un retraité de la police de Tampa. Il a été, Tampa en Floride, il a été inculpé de meurtre sans préméditation mardi, après avoir abattu lundi soir dans un cinéma un homme de 43 ans à qui il reprochait d'envoyer des SMS pendant la séance. Alors, en gros, selon des témoins, du coup, le ton est monté entre les deux hommes parce que la victime utilisait son téléphone et écrivait des SMS du coup devant le film. En plus, c'est un film avec Mark Wahlberg. Enfin bref, du coup, la victime, après cette espèce de truc où ils sont un peu houspillés là, aurait lancé du pop-corn sur Curtis avant que ce dernier ne lui tire une balle dans la poitrine. Alors, l'avocat du Pélo demande de libérer son client sous caution, sur la base de ses excellents états de service avec la police de Tampa, et aussi en tant que directeur de la sécurité d'un parc d'attractions. Les enfants, ayez peur. Je cite l'avocat maintenant, du coup. « Toute sa vie, il a protégé les gens contre des individus qui commettent des crimes. Il ne représente aucun danger. » Pour la population, a donc déclaré son avocat qui, accrochez-vous bien, s'appelle Richard Escobar. Du coup, la juge ne l'a pas entendu et a quand même ordonné le maintien en détention de l'accusé. Il faut quand même savoir qu'il y a plus d'un million de personnes qui disposent d'un permis de port d'armes en Floride. C'est l'état le plus armé de tous les États-Unis. Et moi, du coup, cette histoire, ça m'évoque un peu deux choses. La première, c'est déjà que ça permet de rappeler que finalement, on vit quand même mieux dans un monde sans armes. Pourtant, je suis pas un apôtre de la non-violence, mais un monde sans armes ou un monde avec des armes, c'est quand même là où la moindre embrouille finit tout simplement par une balle dans le buffet. Et je comprends toujours pas qu'il y ait des gens qui sont plus en sécurité dans ce cadre-là. Et deuxièmement, on peut décidément pas faire confiance à la police, même quand ils sont à la retraite. God damn it.
Alors ça va se passer après-demain au tribunal d'instance de Lyon, celui de la rue Servian. Il va y avoir plusieurs cas, en réalité deux dont on est au courant, d'occupation d'appartements par des personnes en grande précarité qui vont se retrouver devant le juge, c'est-à-dire, soyons clairs, des squats. Alors, dans le premier dont il s'agit, c'est dans le 7e arrondissement, au 1 bis rue du Repos, c'est-à-dire le pâté de maison dans lequel il y avait le squat chez Rita. Mais du coup, il y a une partie du pâté de maison qui était dissociée d'une manière devant la justice. En tout cas, il y a des gens qui y sont toujours alors que chez Rita a été expulsé. Et donc, il s'agit de logements qui appartiennent au CCAS, qui sont gérés par l'organisme HLM Grand Lyon Habitat, qui sont inoccupés depuis des années, pour certains depuis 10 ans, et qui, pour un de ces appartements, abrite depuis début juillet 2013 la famille Kovacci. Il s'agit d'une famille de 13 personnes avec 7 gamins. Tous les enfants sont scolarisés dans l'arrondissement. Voilà, ils sont en France depuis 2002, ils ont toujours habité dans des squats ou des camps. Et puis voilà, suite à l'incendie du dernier endroit où ils avaient habité, là ils sont dans cet appartement du CCAS. Depuis leur arrivée sur l'agglomération, cette famille a effectué de nombreuses démarches pour obtenir un toit légal et bénéficier d'un accompagnement social. Mais bien sûr, que dalle. Et donc l'occupation des appartements du CCAS n'est que la conséquence des échecs répétés de ces démarches. Le même jour, ce même tribunal doit aussi statuer sur le cas d'un autre appartement, ça c'est près de la place Voltaire. Alors, on va commencer par parler du propriétaire de cet appartement, parce qu'il possède par ailleurs un important patrimoine immobilier, plusieurs sociétés immobilières et de luxueux chalets en montagne. Et c'est ce monsieur qui argue aujourd'hui de, ouvrez les guillemets, difficultés économiques pour obtenir une procédure urgente pour expulser Anaïs qui squatte l'appartement en question. Alors Anaïs, elle est précaire. Elle est dans l'attente de l'examen de son dossier et de son dossier d'attribution d'un logement social. Et le propriétaire, en plus de l'expulsion immédiate, c'est-à-dire que sans le délai de 2 mois légaux qu'il est possible de faire sauter dans les cas de squat, mais donc en plus de l'immédiate expulsion, le propriétaire demande aussi une condamnation au paiement d'une indemnisation de 1000 euros par mois d'occupation au titre du préjudice subi. Alors il faut savoir quand même que l'appartement est extrêmement dégradé, que la toiture est lézardée et que ça... l'eau coulait dans l'appartement et que le dégât des eaux était en train de menacer un peu tout l'immeuble s'il n'avait pas été réparé par les nouveaux occupants. Alors bon, pour ce qui est du préjudice subi par le propriétaire, bonjour. Le collectif logement estime à 24 000 les logements vides dans l'agglomération lyonnaise et à 6 000 les personnes sans logement. Et le 115 est, comme d'habitude, bien trop débordé pour pouvoir héberger une proportion notable des gens qui appellent. Donc le collectif logement appelle à se rendre au tribunal, c'est vendredi à 8h30 au tribunal d'instance de Lyon, c'est-à-dire au 67 de la rue Servian, et c'est salle A. Wiser than man that knows a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay fool. Some rise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world but sell your own soul for the price of a pole?
Ta mauvaise spécialité ce soir, ce sera le pétrole, décidément. Deux pirates informatiques ont piraté la pompe à essence de l'Intermarché de Sévron en Seine-et-Marne grâce à un dispositif acheté sur Internet. En gros, ils sont allés sur un forum Black Market, comprenez Marché Noir, et pour 300 euros se sont procurés un boîtier électronique permettant de remplir son réservoir sans dépenser le moindre centime. Alors ne rêvez pas, un black market, c'est pas le forum auquel vous pouvez accéder aussi simplement. Comme il s'agit de lieux où les pirates informatiques se retrouvent pour échanger tout type de services ou produits illégaux, en gros genre des listes de cartes bancaires piratées, des logiciels malveillants, etc., etc., ce sont des bons endroits surprotégés où il faut montrer patte blanche pour avoir accès au contenu. Bref, ces deux personnes ont commencé par faire le tour des stations pour en trouver une qui marche avec leur dispositif. Et là, ils ont commencé à faire le plein de leur voiture, puis se sont mis à remplir des cuves de 1000 litres pour revendre du gasoil à prix cassé. En gros, ils les revendaient 50 centimes le litre. On comprend que ça avait fait des envieux. Malheureusement pour eux, ils se sont fait choper à cause d'une balance qui a prévenu les flics. Ils ont avoué avoir pris 8000 litres de gasoil. Et ils ont quand même eu un jugement un peu sévère. L'un a écopé d'une peine d'un an de prison, dont 6 mois ferme. Le reste avec sursis, donc. Et son collègue, qui n'a servi que de chauffeur, a pris un mois ferme en régime de semi-liberté.
Ouais, pour 4000 balles en plus, on peut dire que c'est même plus que ferme, ouais.
Ouais, non, là, c'est un peu chaud. En gros, l'avocat du propriétaire de la station essence demandait des peines exemplaires pour éviter que ça se reproduise, parce que c'est hyper courant comme pratique. C'est rarement médiatisé, mais c'est assez courant.
C'est cool, 50 centimes le litre.
Ouais, moi je trouve ça assez sympa par rapport au risque qu'ils prenaient et tout. Bon, au final, je pense qu'ils avaient plutôt intérêt à essayer de changer de station régulièrement et à éviter de faire du commerce avec, ce qui va accentuer les risques de se faire choper.
Mmh. Et ben, est-ce que ce serait pas le moment de s'écouter une petite musique?
Bah oui, hein.
Alors, il s'agit de Lola Lafont et le titre, c'est Complètement à l'Ouest.
Métro Châtelet, tu es à l'Ouest.
Bon voyage, messieurs, dames, merci pour la musique, excusez-moi pour le dérange. Bon voyage.
Vigipirate. Donc contrôle, police, Roissy, Air France.
La température est de 22 degrés à bord. Wish you a very pleasant trip.
On va te la scotcher, ta gueule.
Tu vois?
Trois descendants d'un maréchal zélé appuient trop fort sur tes poumons. Alors inspire et expire.
Oui,
inspire,
contrôle police,
l'État
français.
Expire, inspire, expire. Si là, c'est comme ça, moi je suis complètement à l'ouest. Si là, c'est comme ça, moi je suis.
Interpellerons tous ceux qui auront un comportement.
Préfecture, police, Roissy, Air France.
A very pleasant trip.
L'État français et ses exécuteurs testamentaires font le nécessaire de leurs poignes de fer et
tu repasses à l'Est,
ta gueule. Tu vois, hein, t'es déjà mort.
T'es déjà mort.
Le retour
t'es déjà mort.
Merci pour la musique. Bine ae venit. Bine t'am găsit. Bine t'am găsit.
Bon voyage.
L'État français inspire.
Wish you a very pleasant trip.
Expire. Inspire. Expire. Expire.
Si là, c'est comme ça.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Et alors, on vous avait parlé la semaine dernière de manifestations à Tel Aviv, de manifestations de sans-papiers à Tel Aviv, et bien ça continue. Des milliers de femmes africaines accompagnées d'enfants ont manifesté aujourd'hui à Tel Aviv, toujours contre le refus des autorités israéliennes de leur accorder le statut de réfugiés. Nous sommes des réfugiés, c'est ce qu'ont scandé les manifestantes, dont une partie portait des enfants dans leurs bras ou dans des poussettes. Elles ont brandi des banderoles sur lesquelles il était écrit « Nous voulons la liberté » et « Stop au racisme ». Et elles ont défilé devant le siège du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, et devant l'ambassade des États-Unis. Une manifestante explique à l'AFP « Nos enfants n'ont aucun papier d'identité et n'ont donc aucun droit. Nous ne disposons d'aucun soutien pour nous et nos enfants. Nous sommes en situation de survie. » Déjà la semaine dernière, des dizaines de milliers d'immigrés africains qui étaient entrés illégalement en Israël avaient manifesté à Tel Aviv, puis à Jérusalem, devant le Parlement israélien. Et voilà, ils dénoncent surtout le refus des autorités d'examiner leur demande d'asile tout court, ainsi que le placement en rétention de centaines d'entre eux. Donc la semaine dernière, Netanyahou, le Premier ministre, les avait prévenus que leur manifestation ne servirait à rien et avait refusé de les recevoir. Il faut savoir que selon une loi qui a été votée le 10 décembre dernier, les immigrés clandestins peuvent être placés jusqu'à un an en centre de rétention sans procès, on l'avait déjà dit aussi. Et après le vote de la loi, un centre de rétention a été ouvert dans le sud d'Israël. Il est ouvert durant la journée, mais ses occupants doivent... Ah, il est ouvert durant la journée, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de sortir, mais ils doivent revenir pointer trois fois dans la journée et ils sont obligés d'y passer la nuit. Les autorités israéliennes estiment à quelque 52 000 le nombre actuel de migrants clandestins et ont lancé depuis 2012 déjà une campagne qui a abouti au départ ou à l'expulsion de 4 000 d'entre eux. La clôture électronique qui a été construite par Israël le long des 230 km de frontière avec l'Égypte a réduit pratiquement à néant le nombre d'entrées illégales à partir de la péninsule du Sinaï.
Il faut que ça se sache.
Et maintenant, moi, j'ai décidé de vous raconter un peu une histoire un peu plus en détail que d'habitude. C'est une petite histoire de deux personnes qui veulent migrer. Et du coup, c'était un peu pour essayer de montrer aussi le cynisme des situations par rapport à tout ce qu'on appelle les politiques migratoires, comme ça. Alors du coup, c'est l'histoire de Diallo Ibrahima et de Mamadou Saïdou. Ils sont Peuls, ils sont originaires de Kindia, en Guinée-Conakry. Et du coup, c'est un pays qui est quand même assez instable pour que le gouvernement vienne de remettre sa démission aujourd'hui même, d'ailleurs. Et du coup, ils avaient décidé de rejoindre l'Europe. Ils sont partis le 22 décembre, ils ont embarqué avec une dizaine d'autres personnes sur une pirogue et au large des eaux territoriales du Sénégal, ils ont réussi à approcher un cargo italien, un porte-container qui s'appelle le Joli Marone. Alors la pirogue, elle a réussi à se coller à la coque du cargo et finalement, seules les deux personnes en question ont réussi à grimper parce que la mer était super agitée et qu'ils étaient pas loin de se renverser. Ils font 5 jours de navigation jusqu'à un port de Belgique, et là, refus d'accueil des autorités. Ils appareillent ensuite pour le Portugal, nouveau refus, puis vers Gênes, troisième refus, et enfin vers Marseille, où ils arrivent le 10 janvier. Là, la police aux frontières refuse d'enregistrer leur demande d'asile et leur notifie un refus d'entrée sur le territoire. Ils sont alors remis à bord quelques heures après, pour être amenés à leur point de départ, sans avoir été placés en zone d'attente ni rien, comme le stipule la loi. Et en plus, on les remet du coup sur le Joli Marone, toujours le même bateau, et cette fois direction l'Espagne. Mais une fois qu'ils sont sortis du port de Marseille, les deux ont décidé de se jeter à la mer dans la nuit pour entrer illégalement sur le territoire français. Ils étaient assez bons nageurs, mais il y en a quand même un qui a jamais atteint la côte. Alors du coup, voilà ce truc, cette histoire elle a été un peu médiatisée, surtout à Marseille là ces temps-ci, puisqu'il y a eu des manifs, etc. Ça pose quand même plusieurs problèmes. Déjà, en fait, leur demande d'admission au titre de demandeur d'asile n'a pas été enregistrée. Et du coup, les deux jeunes ont été placés dans une zone d'attente, n'ont pas été placés en zone d'attente pour que le ministère de l'Intérieur l'examine comme c'est la procédure après un avis de l'OFPRA. Ensuite, les autorités françaises ne pouvaient normalement pas imposer aux transporteurs maritimes de reprendre à son bord les deux jeunes Guinéens. Leur retour a dû se faire par un avion ou sur un autre bateau après une procédure. Donc voilà un nouvel exemple typique du rien à foutre de la PAF, là, j'ai nommé la police aux frontières. L'asile politique n'est de nos jours plus du tout considéré comme une mesure de protection, mais bien comme une brèche permettant de laisser entrer des parasites sur le sacro-saint territoire français. La PAF est d'ailleurs si peu contrôlée et à tant de latitude qu'elle se permet de choisir d'elle-même les procédures qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas suivre. Au final, Diallo Ibrahima, la personne survivante de cette histoire, a été placé en zone d'attente au centre de rétention du Canet. Il fait une demande d'admission au titre du droit d'asile, il sera présenté au JLD sous peu, je crois peut-être même aujourd'hui ou demain. Celui-ci va statuer sur cette demande de remise en liberté ou pas. Il n'est absolument pas certain de voir un fin favorable à sa demande, mais il a quand même fallu un mort, la médiatisation de l'affaire et des rassemblements de militants et militantes pour qu'il accède juste et tout simplement à une procédure légale.
Ça sache.
Petite nouvelle de Calais, pour ne pas oublier cette ville du Nord. Donc samedi 4 janvier, le préfet pyromane. Donc les douches gérées par le Secours catholique à l'usage des exilés ont été à nouveau incendiées. Donc ça c'était le 29 décembre. Et quelques jours avant, le préfet du Pas-de-Calais désignait les exilés comme un facteur d'insécurité et comme les responsables de la mauvaise situation économique du centre commercial DKB, donc un centre de Calais. Et donc, voilà. Et pour préciser, ces douches sont en elles-mêmes une aberration puisqu'elles sont implantées en pleine zone industrielle, à l'écart de tout. Il faut tous les jours que donc des bénévoles du Secours catholique fassent la navette en fourgonnette pour emmener et ramener les exilés. Donc elles ont été implantées là pour reléguer donc les exilés à la périphérie. Et comme elles ne sont pas ouvertes au reste de la population. Donc on est un peu loin des bains publics municipaux ouverts à tous. Puisque là, c'est vraiment des histoires de cantonnage, quoi. Et suite à l'incident, les douches d'un équipement sportif devaient peut-être être réquisitionnées. Une semaine pendant laquelle le préfet a fait beaucoup de déclarations pour finalement que rien ne se passe, que rien ne soit réquisitionné. Puisque les exilés peuvent aller dans une autre structure se doucher, ce qu'ils font déjà toute l'année, sauf que la structure est méga, méga chargée. Et quoi ? Vive le salariat. La sécurisation de la frontière britannique à Calais et ses alentours représente 210 emplois directs. Donc juste les emplois directs. Et voilà. Non, je sais pas, ce chiffre-là, il est assez impressionnant pour voir vraiment l'État, à quel point il est prêt à mettre de la thune dans ce truc-là de 210, donc emploi, ça veut dire à l'année aussi. Et du coup, on pourrait peut-être s'en servir autrement, par exemple, si on pouvait imaginer 210 emplois pour réhabiliter des logements vétustes ou inconfortables et pour rendre habitables des bâtiments vides, pour que chacun soit logé dans des conditions décentes, etc. On peut imaginer plein de manières de...
Ok, moi je vote pour toi. C'est bon, tu m'as convaincu.
Ça sache.
Et on va à Zurich maintenant pour parler, pour une fois, pas de gens dont la vie est brisée par le système de détention et de rétention, mais parler d'une action et de manifs qui ont eu lieu. C'était samedi 11 janvier. Il y avait une manif qui était appelée contre les camps pour demandeurs d'asile et la politique d'asile en Suisse. On n'en parle pas très très souvent, du coup voilà. Cette marche fait suite à l'ouverture le lundi précédent, le 6 janvier, d'un nouveau camp de rétention dans la ville. Il y a près de 500 personnes solidaires avec les sans-papes qui ont répondu à l'appel bruyamment avec fanfares, slogans contre la machine à expulser et banderoles, etc. Les flics quadrillaient bien sûr la ville, ils ont même bouclé le centre-ville avec de nombreux escadrons et des canons à eau, alors que la manif était simplement centrée sur une suite de discours au mégaphone et une manif un peu classique. Et voilà, en tout cas quand même la nuit qui a suivi la manif, les locaux de la SIP, c'est la prévention intervention de sécurité, ont été attaqués à la peinture. Cette action a été faite en réponse aux politiques racistes envers les demandeurs d'asile de Zurich, la répression policière et les camps de rétention selon les tags laissés sur place.
Desperate man with a jewel I take from Peter to go and pay full some razz by sending my virtue fool. What have you made if you gain a whole world? Alors, pour finir ce Canu Info, je vais prendre du temps pour vous raconter une petite enquête de fond qui a été menée par Toufik de Planoise et qui a été publiée par la revue L'Utopique, PIK. Et c'est quand l'extrême droite se la joue retour à la Terre. Donc je commence, donc cultiver son entre guillemets âme celte, se réenraciner dans les terroirs de la France éternelle, tout ça entre guillemets.
On a compris que
respirer l'essence authentique du peuple de France. Donc voilà, l'extrême droite s'empare à sa manière de la transition écologique et d'expérience de relocalisation et de décroissance. Donc il s'implante, en tentant d'implanter dans plusieurs régions des villages prétendument écolos et conviviaux. Et ces projets en apparence sympathiques pour les non-avertis masquent une vision très raciste de l'écologie. Donc une des premières alertes a été donnée début 2010 dans un petit village du Morvan, Mouron-sur-Yonne, 99 habitants.
Donc, pardon. C'est ça un... arrive. Faut t'en remettre.
C'est un coin tranquille, perdu entre Auxerre, Dijon et Nevers.
C'est, ah, ça c'est chaud.
Terre aride, quoi.
Juché en lisière d'un parc naturel remarquable. Mais comme dans nombre de petites communes, les riverains, notamment les plus anciens, subissent la désertion rurale. Donc. En 2009, il y a une petite bande de jeunes qui veulent reprendre l'ancienne tuilerie. Donc,
c'est pas une épicerie.
Non. Et donc là, ce qui fait plaisir à tout le monde, en fait. La vie s'y réinstalle de nouveau. Vous voyez, une vie qui réenchante vraiment les 99 autres habitants. Donc là, jusqu'au jour où un internaute tombe sur des discussions en ligne décrivant le projet dans ses moindres détails, localité, bâtiment, date, et la surprise. Il constate que les débats et le cadre s'orientent ostensiblement vers l'extrême droite, donc avec son lot de colibères racistes et d'ode à la mère patrie. L'endroit est nommé la Dessouchière. Par ses partisans, ce qui sous-entend que ce lieu est réservé à ceux qui sont de pure souche. Donc rapidement, plusieurs personnes, dont des antifas, créent un blog pour dénoncer ce qui sera la première tentative avérée de village identitaire. Et mois après mois, les auteurs du blog Des Souchières dégagent apportent des éléments sur les véritables intentions des nouveaux arrivants, derrière la bonhomie affichée d'un retour à la terre écolo. Et plusieurs piliers de la Des Souchières sont issus de blocs identitaires, l'une des composantes de la nébuleuse de l'extrême droite radicale, qui s'étend des royalistes aux néo-nazis et de ses ramifications. Il concrétise ici la volonté fantasmée de recréer le bourg gaulois d'Astérix et Obélix. Celui d'une vie en
avec le cochon qui rame et tout.
Ouais. Celui d'une vie en communauté, loin du matérialisme, de l'individualisme et du entre guillemets mondialisme, d'une France jugée déliquescente. Ouais, une vie en communauté.
Ça te laisse perplexe.
Non, je suis pas contre ça, par contre. Une vie en communauté seulement entre blancs. Et je cite, au cœur du Morvan, au vieux pays celtique, là où de tout temps une rude race a vécu avec ténacité et indépendance. Donc France éternelle et âme celte, version bio. En continuant les recherches, une nouvelle structure est dévoilée en 2011. Il s'agit d'une AMAP, donc vous voyez, pour vendre des légumes, de l'agglomération dijonnaise, ciblée pour les liens étroits qu'elle entretient avec la Dessouchière. Elle s'illustre pour la promotion du terroir d'antan et propose des paniers grévelons.
Mais ils font comme les bobos.
Ouais, ils font tout comme, mais les AMAP, il y a aussi des gauchos qui les font, tu vois. C'est... Un assortiment de... Bah, c'est pour ça qu'il faut rappeler, l'écologie n'est pas de gauche, quoi, ni de droite. Bah, elle est de tous les bords.
Quoi. Les partis écologistes le prouvent chaque jour, de toute façon.
Oui. Donc c'est les paniers Grévelon. Attends. Un assortiment de produits locaux estampillés du blason de la Bourgogne.
Et oui.
Alors ça, on est content quand on reçoit ça chez toi.
Avec un petit drapeau français en dessous des légumes.
Ah non, je crois que c'est très bourguignon. Hein. Ah. Ouh là là, attention. Donc là aussi, le vernis ne tiendra pas bien longtemps. Donc après vérification, cette association du nom de Cercle Vincenot, en hommage à l'écrivain régionaliste bourguignon, s'avère issue de la mouvance identitaire et directement de la des Souchières, avec des membres formés au sein de cette dernière et poursuivant les mêmes desseins. Donc l'histoire se répète près de Besançon, trois membres de la des Souchières, puis de la MAP de Dijon s'installent à la Caborne, du nom d'un habitat typique de la Franche-Comté. Donc c'est la boulangerie et des annexes et des locaux annexes servent de point de ralliement. Donc personne dans le village n'est au courant, seuls les initiés sont dans la confidence, le temps de développer le projet et de prendre racine. Bon, là c'est comme si l'auteur était étonné de ça, mais c'est pas étonnant ça. Mais bon.
Ouais, bah, disons qu'on avait plus l'habitude des hippies gauchistes en Ardèche, quoi. C'est peut-être ça aussi qui est un peu plus surprenant.
Donc des activités sportives et culturelles commencent à attirer la population. Un potager et des vignes sont en projet. Il y a un petit blog, vous voyez, qui valorise le terroir, l'éthique alimentaire, l'amitié autour d'une bonne table. Et voilà, qui ne pourrait pas avoir de l'empathie devant des valeurs franches, ces valeurs franches. Voilà,
moi je peux ne pas en avoir.
Oui, mais du coup, en parallèle, des actions du bloc identitaire se réalisent comme par hasard à proximité. Et voilà. Et ensuite, le vert. Le point commun entre la des Souchières, rebaptisée plus discrètement la Maison des Elfes, ou. Ça, c'est ridicule, par contre. Ouais. Ou la Caborne, donc c'est une association nommée donc des racines et des elfes.
Excellent.
C'est d'autant plus ridicule, qui recueille les dons et organise des actions de soutien. Donc, mais l'association entre guillemets met en place des solutions alternatives positives, constructives et fortement enracinées dans le domaine qui touche de près ou loin à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine des peuples d'Europe. Bon, ça, c'est vraiment large, ça fait, c'est fourre-tout et ça va rien dire. Voilà. Donc, le discours est d'abord implicite. On se revendique, donc, dans des racines et des elfes.
C'est dur de garder son sérieux avec un truc pareil.
Européen, libre, fier, enraciné et solidaire, ça rime. On évoque l'essence authentique et historique du peuple des France et on vante la restauration de l'âme véritable de ce sol. Franchement, et c'est, voilà, au cœur de la France éternelle. Mmh. Et du coup, paradigme. Non, paganisme.
Juste, moi, je crois que c'était ça.
Fatigue, je suis désolée. Paganisme blanc ou catho-terroir. Donc, actuellement, le nombre de structures similaires à l'ex des Souchières est difficile à évaluer. Ce qui est certain, c'est que la mouvance d'extrême droite cherche à les multiplier. On peut, par exemple, citer le réveil et la Vivre, structure située en Bourgogne. Selon ses promoteurs, Vivre est l'acronyme de Valeur, Identité, Vérité, Résistance, Espoir. Voilà, encore bien active, l'association Racine Charnelle, située en Rhône-Alpes, tente exactement le même parcours. Donc un blog du même nom relaie les appels à soutenir donc la Maison des Elfes. Je suis arrêtée de le dire. Voilà.
Pourtant, et Racine Charnelle, on dirait plus une espèce de boîte échangiste cachée au milieu de la Bourgogne.
Ils sont mieux cachés en Rhône-Alpes.
Ouais.
Et un réenracinement qui s'étend des Flandres à la Bretagne. On peut aussi citer la ferme du Bout du Monde, située en Haute-Loire. Retour à la terre dans l'Allier pour un réenracinement, une antenne des Vlaams Huis, maison flamande, à Lambersart dans le Nord, animé par d'anciens membres du FN, et plus récemment Jeune Bretagne, issue du bloc identitaire, qui a acheté pour 330 000 euros une bâtisse pour en faire un centre des identités nommé Tibrez. Bref, en tout cas, l'extrême droite, ils ont plus de fonds, ils vont arriver à peupler beaucoup plus facilement que des petits projets de squat. Voilà.
Mais non, on va les défoncer.
Ils vont pas tenir.
Mais c'est clair.
Les associations Ahlan, Marlish et le collectif Pushka présentent le festival Révolution R sur les révoltes et les cultures urbaines arabes. Du 25 janvier au 11 février 2014. Projections, concerts, expo photo, table ronde, atelier calligraphie. 18 jours d'événements pour faire de Lyon une caisse de résonance aux changements en cours dans le monde arabe. Seront présents pour la première fois à Lyon Hin Medeb, DJ Figo, Boycott, DJ Sotosura, Dib, Clay BBG et Phoenix. Retrouvez toutes les infos et la programmation sur nos sites internet revolutionr.com ou sur notre page Facebook Révolution R.
Ah mon micro, ça y est. Et
Ah, mais ça va claquer ce soir.
C'est la grosse patate.
Alors tout ça pour dire qu'en lien avec le festival dont on vient d'entendre la bande-annonce, on pourra écouter lundi à 14h sur Radio Canu le meilleur du hip-hop arabe révolutionnaire contemporain et mardi à 15h la suite, en sachant qu'en réalité sera un peu hip-hop, un peu dance arabe.
Ouais, c'est ça. Et mercredi de 16 à 17h, il y aura un son bâtard un peu spécial méditerranée centré sur les mêmes questions de musique et révolution autour de la Méditerranée.
Vivement la semaine prochaine. Et vivement la semaine prochaine. Et côté température.
Ouais, météo.
Pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer.
Ah non, va-t'en.
Il va pleuvoir du pétrole.
Exactement.
Sortez les bidons.
Ouvrez vos réservoirs. Non, non, là vos voitures vont rouiller. Demain, il va pleuvoir toute la journée. Normalement, on aura des températures qui iront de 7 degrés le matin à 10 degrés pour les maximales l'après-midi. Autant dire qu'il va faire frisquet, en plus il fait humide, c'est désagréable et tout. Vendredi, de rares averses risquent de pointer leur nez, mais la pluie va... ne sera pas ultra présente dans la journée.
Ça avait l'air tout noir, le nuage, pourtant.
Ouais, mais regarde, il n'est pas sur Lyon. Hop, tu vois, il est en haut vers Mâcon, en bas vers Valence.
Il est autour de Lyon et tu crois qu'à Lyon, il y a un grand soleil et ils ont oublié de le mettre.
Mon expérience montre qu'en général, ça fait qu'au bout d'un moment, il y aura peut-être une petite averse qui va traverser Lyon, mais ne devrait pas s'attarder dans la région.
Merci Joël.
Et les températures, eh ben, vendredi, ce sera comme demain, c'est-à-dire 7 degrés pour la minimale et 10 degrés maximale pour l'après-midi. Ouais, samedi, allez, c'est le week-end, on se met un petit coup de soleil, et coup de soleil, attention, un peu de soleil, vous mettez pas de crème non plus. On aura des températures nettement en baisse le matin avec 2 degrés, et l'après-midi, un petit 2 degrés supplémentaire, on aura 12 degrés en maximale, et quelques nuages font leur apparition, mais on aura de belles éclaircies sur l'agglomération.
Puis comme il nous reste quelques minutes... j'ai deux tracts sous mes yeux, j'aurais qu'à vous les dire. Alors si vous avez envie d'aller au théâtre cette semaine, donc c'était à partir d'hier jusqu'à dimanche à l'espace 44 dans le premier arrondissement, il y a une pièce qui s'appelle Invitation Goldberg, et c'est de la musique, c'est une conversation entre les variations Goldberg, donc de la musique de Bach, et un texte éponyme de Nancy Houston, qui est interprété par la voix d'Elisabeth Gavalda. Voilà, c'est à l'espace 44. Et sinon, à la Griffe, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, il y a un petit rendez-vous. Pourquoi ? Pour essayer de créer un lycée autonome et autogéré à Lyon. Donc, c'est possible de rejoindre ce projet. Donc, tous les troisièmes jeudis de chaque mois. Et le site internet, c'est lyaaly.fr.
Yep.
Ouais, bon, et ben,
ouais.
Au moins 3-4, on va vous laisser avec un tout petit peu de musique en attendant Idées Noires, l'émission de la CGA, la Confédération des groupes anarchistes.
Mais on se revoit la semaine prochaine,
Plus la patate.
Mais ouais, non, c'est l'hiver, c'est pas grave.
Ciao.
Et bonne soirée à vous.